Technologie. Science.
Algorithme.
Simulation.
Informatique.
Technologie.
Chers auditeurs, bienvenue dans ce 28e épisode du podcast Interstice. Aujourd'hui, il est presque impossible de ne pas produire de données. Où qu'on aille, quoi qu'on fasse, on laisse des traces. Alors comment fait-on pour analyser ces données et en quoi est-ce important? Pour répondre à ces questions, nous recevons Florent Masseglia. Florent Masseglia, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur en analyse de données à l'INRIA Sophia Antipolis dans le projet AXIS. La fouille de données, ça consiste en quoi?
Alors, on a plusieurs termes pour désigner les techniques d'analyse de données. En général, la fouille de données, on considère que c'est justement l'ensemble des techniques d'analyse de données. Et plus généralement, on parle d'extraction de connaissances à partir des données.
D'accord. Et quel est le principe de cette extraction de connaissances ou fouille de données?
Le principe de la fouille de données, c'est de dire, j'ai un Everest de données. Est-ce que je peux trouver quelque chose là-dedans de particulier? Des associations fréquentes, des enchaînements fréquents, des groupes, par exemple des groupes d'utilisateurs d'un site web auxquels je n'aurais pas pensé a priori. À partir du moment où le schéma est valide et qu'il a été extrait sur l'ensemble des données, ensuite c'est à l'expert de prendre sa décision.
Et avec un exemple concret, ça donnerait quoi?
Un exemple typique qu'on peut prendre de ce genre de schéma, justement, c'est un exemple qui est fictif, mais qui est historique. En fouille de données, on a les données d'un supermarché, avec les transactions des clients, les paniers, en gros, des clients qui sont passés dans les caisses. Et on veut analyser ce qui s'est passé dans les achats des clients dans ce supermarché. Et cet exemple dit, ben voilà, on a trouvé une association entre des articles achetés par les clients qui dit que dans 25% des cas, donc 25% c'est énorme, hein, et c'est évidemment fictif, les clients qui achètent de la bière et des gâteaux achètent aussi des couches culottes. Alors c'est assez surprenant comme motif, et c'est le but du data mining, c'est justement, ou de la fouille de données, c'est justement de produire des connaissances comme ça qui sont surprenantes mais utiles. Alors c'est surprenant, évidemment on ne s'y attendait pas, et c'est utile parce que l'interprétation serait que, alors ça va faire un peu cliché, mais c'est madame qui va faire les courses, qui décide que les couches culottes finalement c'est un peu lourd, elle ne veut pas les ramener à la maison, et elle envoie monsieur faire les courses. Par contre lui, quand il va faire les courses, il achète de la bière et des gâteaux, et il rentre avec tout ça à la maison. Donc ça fait une espèce d'association bizarre entre ces articles-là, à laquelle on ne s'attendait pas, mais qui peut permettre de, par exemple, réorganiser les rayons du supermarché en disant on va soit les séparer et les mettre très loin pour que le client fasse tous les rayons,
on
ou alors on va les regrouper pour
en vendre plus. Couches culottes à côté des bières.
Voilà,
donc vous, dans le projet AXIS, vous vous intéressez à la fouille de données, notamment pour l'analyse des usages.
Oui, il faut savoir une chose, c'est qu'on produit tous des données, ou quasiment tous, en permanence. Donc, il suffit d'avoir une carte bancaire pour produire des données. C'est très simple, hein, en allant retirer de l'argent en guichet ou en faisant des achats dans un magasin, la banque va enregistrer toutes les transactions. Il suffit aussi d'avoir un téléphone portable pour générer des données, de naviguer sur Internet pour laisser des traces de sa navigation sur le site Internet en question. Donc, on génère des données en permanence. Et le type de données auxquelles on s'intéresse dans AXIS, ce sont les données d'usage, en particulier sur les sites web. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on navigue sur un site web, le site web enregistre l'adresse IP, la date et la page qui a été demandée. Et ça, on peut faire une analogie avec les transactions dans le supermarché, l'article qui a été acheté par un client à une date précise. Donc, on peut en extraire des connaissances du type quelles pages sont souvent consultées ensemble, sont associées, ou alors quels sont les enchaînements fréquents de pages qui sont consultées. On peut aussi regrouper des utilisateurs en fonction de leur centre d'intérêt. Donc ça, ce sont les types de schémas, justement, les types de connaissances qu'on peut extraire à partir des données d'usage, et en particulier sur les sites web.
Et ça peut servir pour un site web à mieux organiser, par exemple, les informations sur ses pages?
Oui. Par contre, maintenant, on a des sites qui sont de plus en plus dynamiques, donc on va essayer d'automatiser ça, extraire en même temps qu'on extrait les connaissances sur les usages, les comportements des utilisateurs, essayer de s'adapter. Mais une autre application, et qui est probablement plus fréquente, en tout cas sur un plan commercial, c'est la recommandation.
C'est-à-dire?
Il suffit d'avoir navigué sur un site comme Amazon, par exemple, pour faire des achats, et on voit facilement en bas des recommandations. Les clients
L'intérêt.
Qui sont intéressés par ce livre-là, ou qui ont acheté ce livre, ou qui ont consulté cette page, ont aussi acheté tel autre livre, ou ont consulté telle autre page. Ce sont des recommandations qui sont faites à partir de techniques de fouille de données sur les usages des autres utilisateurs qui sont passés avant vous.
Mais pour les sites web, par exemple, j'imagine qu'on ne peut pas accéder comme ça aux données. Donc, comment vous faites dans ces cas-là?
Oui, évidemment, il y a des problèmes d'éthique qu'il faut considérer, des problèmes de confidentialité. Il y a plusieurs choses à dire à ce niveau-là. La première chose, c'est que tout le monde n'a pas accès aux données. Les données d'accès à un site web, il n'y a que le site web qui a accès. Un opérateur téléphonique, il n'y a que l'opérateur qui a accès à l'usage qui est fait de ses téléphones. Le deuxième point, c'est qu'il y a des lois maintenant qui vont sortir, qui font en sorte que, bah, par exemple, un opérateur téléphonique ne va plus pouvoir stocker précisément qui a fait quoi. Par contre, justement, la fouille de données peut permettre de résumer les données à la volée pour permettre de stocker tout de même quelque chose, à savoir des connaissances, plutôt que directement les données elles-mêmes. Et un autre élément qui me paraît important, c'est que tout ça, c'est que des statistiques. C'est-à-dire que quand on sort un motif, par exemple, 25% des clients achètent de la bière, des gâteaux et des couches, ce motif-là ne désigne personne en particulier. Ce n'est qu'une règle statistique. Elle est obtenue à partir d'une grande masse de données, mais il n'y a rien d'individuel là-dedans.
Très bien. On parlait tout à l'heure d'applications et en particulier de celles du web. Il doit y avoir beaucoup d'autres applications à la fouille de données.
Oui, oui, bien sûr. Alors, vous avez reçu aussi dans les podcasts Josiane Zerubia qui vous a parlé des images satellites. On peut par exemple analyser des images prises en télédétection qui sont prises par des satellites. On travaille sur ça en ce moment en fouille de données. Alors, il y a un projet actuellement au CEMAGREF de Montpellier qui consiste à analyser les images prises au Mali pour essayer de faire de la prédiction sur le type de culture pour comprendre ce qui se passe dans les cultures et essayer de prévoir ce qui sera issu de ces cultures pour lutter contre la famine.
Et comment fait le chercheur en analyse de données pour ne pas se noyer dans cette masse d'informations ?
C'est à la fois la puissance et la difficulté de l'extraction de connaissances. C'est la puissance parce qu'on travaille sur des quantités de données qui sont tellement importantes qu'on peut en extraire des motifs qu'on n'aurait pas obtenus par d'autres moyens. Et c'est à la fois la difficulté parce qu'on travaille sur des quantités de données justement colossales et ça rend l'extraction très difficile.
Et quelles sont les difficultés liées à cette quantité de données ?
Le problème qu'on a avec ça, c'est un problème évidemment de calcul. Aller explorer déjà de telles masses de données et aussi en extraire les connaissances qui sont valides, les fameuses connaissances, les fameux schémas valides, potentiellement utiles, qu'on veut extraire à partir de ces données-là. Donc si je reprends l'exemple du supermarché, je disais qu'un exemple de connaissances qu'on peut extraire dans le supermarché, c'est que 25% des clients qui achètent de la bière et des gâteaux achètent aussi des couches. Ça, c'est un schéma qu'on veut extraire, une connaissance. Le nombre de connaissances possibles qu'on peut extraire dans ces données-là, il est de 2 exposant le nombre d'articles dans le supermarché. Donc, si le supermarché propose 10 articles en rayon, on a 2 exposants de 10 connaissances possibles à extraire, à explorer. Alors, 2 exposants de 10, ça fait environ 1 000 000. Si on a une vingtaine d'articles en rayon dans le supermarché, on arrive à plus d'1 000 000 de connaissances possibles. Et avec quelques centaines d'articles, le nombre de connaissances possibles dépasse le nombre d'atomes dans l'univers. Je ne sais pas combien ça fait, mais c'est probablement énorme. Et à mon avis, ça ne rentre pas dans un ordinateur.
Alors, comment fait-on dans ces cas-là ?
On a plusieurs types de techniques. Une technique historique, par exemple, consiste à dire on va commencer d'abord par les articles fréquents, tout seul. Un seul article, dans un panier, dans un caddie qui est passé à la caisse. Une fois qu'on a obtenu ça, on va essayer de construire les couples d'articles qui sont souvent achetés ensemble. L'idée derrière ça, c'est de dire c'est impossible qu'un couple d'articles soit fréquent s'il n'est pas composé de 2 articles fréquents. Et ensuite, on va faire grandir ce processus jusqu'à obtenir la connaissance de taille maximale. Et on peut montrer facilement qu'en filtrant les connaissances de cette manière-là, c'est possible d'obtenir les résultats, alors que si on veut énumérer toutes les connaissances possibles, le fameux nombre d'atomes dans l'univers, on ne peut pas y arriver.
Mais les chercheurs du domaine utilisent toujours ces principes-là ou ils travaillent sur de nouvelles méthodes ?
Typiquement, si je prends un site comme Google, qui va avoir des millions d'utilisateurs par heure. Alors, on n'a pas les chiffres exacts, les Yahoo, Google et compagnie ne communiquent pas vraiment sur leur audimat, mais on peut imaginer que quelques millions d'utilisateurs par heure, c'est un minimum. Mmh. Il est évident que ces données-là sont produites dans des telles quantités à une telle vitesse que peut-être qu'on peut les stocker. Par contre, les analyser en temps réel avec les techniques traditionnelles qui veulent des résultats précis, on n'y arrive pas. Donc, on est obligé d'introduire de l'approximation là-dedans. Une fois qu'on a introduit de l'approximation, on est obligé, par contre, de garantir une marge d'erreur.
Pour conclure, quels seront les prochains défis de la fouille de données ?
Alors, je pense que la recette qui a fait le succès, entre guillemets, de la fouille de données au départ, c'est-à-dire on a des moyens très importants, beaucoup de données, et ça crée un besoin. Est-ce qu'on peut les analyser pour en extraire quelque chose et des connaissances ? Cette recette-là fonctionne encore aujourd'hui. Et je pense qu'elle va s'appliquer à d'autres domaines de recherche scientifique, comme la santé ou l'environnement, et de plus en plus. Alors, je vais prendre un exemple récent, c'est celui de Sergey Brin, un des cofondateurs de Google avec Larry Page. Donc, malheureusement pour lui, Sergey Brin a appris qu'il était prédisposé à développer la maladie de Parkinson. Du coup, il s'est intéressé à ce domaine-là, sur la recherche justement sur la maladie de Parkinson. Et bon, on peut comprendre son point de vue, il trouve que ça ne va pas assez vite.
Normal.
Alors, sa volonté en tout cas, c'est d'essayer d'appliquer les techniques de Google à la recherche sur la maladie de Parkinson. Donc ce qu'il a décidé de faire, c'est de collecter un maximum d'informations en interrogeant énormément de personnes atteintes par la maladie pour essayer ensuite de faire de l'analyse de ces données-là. Alors, on a des réactions qui sont plus ou moins sceptiques du côté des chercheurs dans le domaine. Alors, certains disent « Ok, allons-y, voyons ce que ça peut donner, on ne sait jamais ». D'autres diront « Bon, allez-y si ça vous amuse, mais on pense que ça ne va pas donner grand-chose ». Mais il faut quand même être conscient d'une chose, c'est que pendant qu'on est en train d'en discuter là, les algorithmes de Google sont en train de courir sur des masses de données colossales qui sont absolument inédites et c'est du jamais vu jusqu'ici. Et peut-être que demain, ils vont, ces algorithmes-là, permettre de trouver le motif qui va débloquer une piste sur des associations qui n'auraient pas été encore découvertes par les médecins.
Très bien. Florent Masseglia, merci d'avoir accepté cet entretien. Chers auditeurs, ce podcast est maintenant terminé. À la prochaine et n'oubliez pas l'informatique à portée de clic sur Interstice.